Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. Houha ! C'est la combine nanar. Être partout et être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout. Qui peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard. C'est la combine nanar. T'apporter un Richard. Vendre, acheter, revendre, acheter. Avec rien dans les gobelets. C'est ça les billes à nanar. Elles sont partout, elles sont nulle part. C'est la combine à nanar.
Amis de Culture Sport Club, bonjour et bienvenue dans le CSC, votre podcast sport. Avec moi ce soir, l'ami Seb. Salut Seb.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Très bien, et vous-même?
Très bien. De retour à Turbi?
De retour.
Ça s'est bien passé?
Très très bien.
Donc là, tu me fais que des mono-réponses.
Exactement.
Histoire de pas. Il a rencontré l'AS Monaco aujourd'hui. Il est en déplacement.
Hier. Nuance.
Et oui, mais c'est intemporel le podcast, rappelle-toi.
Oui, mais je m'en fous. Donc ne dis pas aujourd'hui.
Et beaucoup de signatures.
Oui, beaucoup.
Ouais. Super, Seb. On te remercie pour ta participation.
Bonsoir.
On vous remercie encore pour votre écoute parce qu'on a été absent pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mais on revient encore plus fort. On est en tout début 2023, fin janvier quasiment, et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Et on commence cette année, pour histoire de se rattraper un petit peu de ce temps perdu. Ce soir, je ne reçois pas un invité, mais j'en reçois deux. Et je suis très content de les recevoir. Chers invités, bonsoir. Et je commencerai par cette phrase. Première invitée féminine, qui es-tu? D'où viens-tu?
Tu n'as pas deux invités, tu as un couple invité.
Et tout à fait, voilà. Tout à fait. Tu fais bien de spécifier.
C'est une première.
C'est une première, oui. Genre, je ne sais pas si on en aura beaucoup, effectivement, mais je suis très content de vous recevoir tous les deux. Donc, merci déjà de votre venue dans ce podcast. Et donc, qui es-tu, cher invité? D'où viens-tu et que fais-tu?
Eh bien, je suis Axel. Donc, je suis ici avec Mathieu, mon conjoint.
Donc, qui es-tu?
Qui je suis?
Tu me l'as dit.
Je suis kiné. Je viens de l'Isère. Là, je suis à Oraison pour le travail et pour maintenant ma vie de couple. Et j'ai rencontré Mathieu et notre passion pour le rallye nous a rapprochés et a fait qu'on s'est lancé dans l'aventure du rallye raid ensemble.
D'accord. Merci, cher invité. Maintenant, on va passer le micro à ton autre invité, à ton conjoint, du coup. Salut Mathieu. Donc, du coup, mais qui es-tu? Donc, on a levé le mystère, mais d'où viens-tu et que fais-tu?
Oui, c'est Mathieu. Je ne sais pas si on se voit parce que tu l'as vu. Tout à l'heure, si tu l'as vu, ça m'a étonné. J'ai dit,
c'était juste une formule de politesse de départ, tu vois.
Mathieu, qu'est-ce que je fais? Je travaille. On n'est pas chômeur. Voilà.
Très bien.
Assez vaste.
Hein. Oui, mais. On...
Et. C'est quoi la dernière question?
Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Tu m'as répondu à que fais-tu?
D'où viens-tu? Je suis des Basses-Alpes.
Tu es des Basses-Alpes.
Voilà.
Et tu es le conjoint d'Axel.
Exactement. Oui, c'est ça.
Alors, déjà, encore une fois, merci de venir sur ce podcast. Donc, on l'a compris, tu l'as un petit peu dévoilé, votre sport à vous. C'est le rallye, mais avant de se lancer dans votre sport, moi j'ai une première question sur quel est votre rapport au sport de manière générale, dans ce qu'il vous apporte, ce que vous y recherchez, d'où vient cette passion? C'est un peu vaste, je vous laisse y répondre. Mathieu, tu as le micro, je t'en prie.
La passion du sport, c'est surtout l'admiration des sportifs de haut niveau qui m'intéressent et qui me font m'imaginer à leur place alors qu'on aimerait l'être et qu'on n'a pas le temps de l'être ou qu'on n'est pas capable de l'être, surtout ça en fait. On n'est pas tous des champions du monde de n'importe quel sport, de cyclisme, de tennis ou autre chose. Donc moi, c'est surtout l'admiration de ces gens qui sont dévoués et qui sont au-dessus des autres, au-dessus de nous. Enfin, selon moi, où je ne peux pas accéder à leur niveau. Et c'est ça qui m'intéresse. Et le sport, pour moi, c'est la compétition. Et donc, c'est de se retrouver face à d'autres personnes et d'essayer de passer les autres, d'être au-dessus des autres et d'être vainqueur. Pour moi, c'est ça. C'est toute une histoire d'une course, comme dans une vie, en fait. À un moment donné, on est né et on essaye de créer sa vie, d'avoir sa maison, d'avoir toujours peut-être un peu plus. Enfin, pas tout le monde est dans cette optique-là, mais... mais c'est d'être voilà, moi c'est un petit peu ça mon idée du sport et de pourquoi est-ce que j'y suis dedans, c'est de me mesurer à d'autres et essayer de me surpasser.
Moi c'est le sport, c'est aussi c'est quelque chose beaucoup lié à mon métier, enfin c'est une hygiène de vie, c'est une qualité de vie, c'est une philosophie de vie aussi, c'est se dépasser, c'est se bouger, c'est le, enfin je suis kiné, donc c'est la rééducation par le mouvement, donc c'est bouger, c'est être actif, c'est dans la vie l'activité quelle qu'elle soit résolve plein de problèmes et la solution, la clé de plein de soucis. Le sport, qu'il soit pratiqué en amateur ou en compétition, c'est un moyen d'évacuer, c'est une passion, c'est ça qui c'est un leitmotiv en fait pour les gens. Et j'ai peut-être moins l'esprit très compétitif que Mathieu peut avoir.
Il acquiesce.
Oui, il acquiesce. Mais après, évidemment que tu te prends au jeu et quand tu es au départ d'un chrono, ça fait 5, 4, 3, 2, 1, tu y vas quoi. Et puis tu t'arrêtes et puis tu as une panne et tu as envie de faire vite pour que ça aille vite. Et quand tu arrives à l'arrivée et puis que tu vois le chrono qui s'affiche, tu es ou content ou pas content et c'est forcément que ça te booste. Après, j'ai moins l'esprit de compétition, mais parce que je suis dedans depuis beaucoup moins longtemps. Mais voilà, se dépasser, échouer par moments, mais quand même, tant pis, chercher des solutions, se relever, se dire, c'est dans la tête, je reste motivée, je lâche rien, je tente tout, maintenant on est là, on s'arrache, on va y arriver, se remotiver. Là, nous, l'expérience, elle est en couple, c'est ça, on y va ensemble, on a eu des épreuves où c'était compliqué, on s'arrache des fois, on s'entraide, on se soutient.
Ne me spoil pas parce que c'est une question qui va arriver.
Oui, mais évidemment,
c'est obligatoire.
C'est une évidence. Mais voilà, c'est là pour le coup, le sport. Nous, on n'est pas des grands sportifs. On aime bien marcher, on aime bien bouger, on est dynamique et c'est quelque chose qui nous rapproche et ça crée une cohésion familiale aussi. Donc, on n'est pas une famille de grands sportifs, mais on aime bien l'activité, quoi.
D'accord.
Petite question par rapport à ça. À part donc le rallye, est-ce que vous avez dans votre jeunesse quoi fait d'autres sports? Au niveau compétition, on va dire, en club ou quelque chose.
Moi, j'ai fait du club de ski, mais j'ai pas énormément l'esprit de compétition, donc c'était pas mon truc. Après, j'adore le ski, quoi.
Et pour toi, Mathieu, ton parcours de sportif?
Sportif.
Du moins dans le sport.
Ouais, sportif, on a tous fait au collège, club, sports obligatoires. Et moi, c'était plus le vélo, VTT et vélo de route. Voilà, c'était des compétitions. Plutôt régional, pas un grand niveau, mais j'ai apprécié le vélo par le côté physique et difficile. Tu t'en chies sur le vélo, en fait, et normalement, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Comme le coureur, comme beaucoup de sports, mais franchement, le vélo, il y a beaucoup de moments en entraînement où je me suis dit, tu t'en bats et tu prends pas de plaisir. Et puis, quand tu arrives à atteindre un certain niveau physiquement, tu commences à prendre du plaisir. Et ça passe et là ça devient agréable, tu rentres à la maison après l'entraînement et tu le vis mieux et c'est beaucoup plus sympa. Ouais. Donc voilà, plus le vélo, j'ai fait du VTT longtemps sur le secteur d'ici, puis après je suis parti sur la route, donc des épreuves plus longues, vélo de route, et puis quelques compétitions, et puis après le lycée, et puis les grandes écoles et on ne peut pas trop s'entraîner. Voilà.
Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené au rallye? Enfin du moins au sport auto.
Une passion familiale, on va dire, où la famille était déjà dans ce milieu du sport automobile. Grands-parents, oncles. Et en partant de là, j'ai été copilote moi à mes 16 ans. Donc première possibilité à 16 ans, on peut être copilote. J'ai été
pour
copilote.
Quelqu'un de ta famille?
Tout à fait.
Ouais.
J'ai démarré copilote.
Ouais.
Et puis voilà, petit à petit, J'ai passé le permis, première voiture, et puis
premier dérapage.
Achat, de, voilà, achat d'une voiture de rallye, les mains dans la mécanique, petit budget pour arriver à se faire plaisir. Et puis voilà, c'était le premier rallye, c'était peut-être même le Terre de Provence, donc qui ouais. est basé dans les Basses-Alpes.
Provence,
ne se
ça.
Fait plus, voilà.
Dans le 04.
Je pense que c'était même celui-ci d'ailleurs. Et je l'ai réalisé, enfin, j'y ai participé pour la dernière année que ce rallye a eu lieu. Voilà.
Ouais. Et est-ce que, alors c'est peut-être un préjugé ou pas, mais est-ce que pour être pilote ou pour être dans les sports, quand tu pratiques le sport auto, est-ce qu'il faut être bon en mécanique ?
Non, pas forcément. Je pense que pour être bon en pilote, un équipage qui soit très bon, je pense que c'est toute une histoire de trajectoire. Donc les skieurs, les cyclistes arrivent et très bien dans le sport automobile. On a Luc Alphand qui est un ancien skieur, qui a une trajectoire sur du Super G, qui est capable d'avoir voilà, une vitesse en ski, qui était capable d'avoir une vitesse en voiture. Chichrit qui a cette année participé au Dakar et qui est un très bon pilote. Donc ouais, je pense que c'est plus une histoire de trajectoire. La mécanique sur des rallyes classiques, on n'en a pas besoin puisque ce sont des sprints. Tu es en panne, ton rallye est terminé, tu prends la route et puis tu t'en vas. Un rallye dit rallye raid avec des spéciales longues et sur une durée plus longtemps, effectivement c'est plus intéressant d'avoir des connaissances, d'être capable de réparer sa monture et de pouvoir repartir. Voilà.
Après c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que moi oui. j'étais pas du tout branché sur le sujet. Donc, à bien faire la différence entre un rallye raid, est-ce que tu as expliqué, ou un rallye classique comme le rallye Monte Carlo, où là, alors, c'est de l'étape par étape où le chemin est totalement balisé. Tu me coupes si je me trompe, c'est-à-dire tu vas d'un point A à un point B, mais vraiment la route est très bien. Enfin, tu peux pas te tromper en gros. Alors que sur un rallye raid, d'où l'intérêt là du copilote. Enfin, tu vas me dire le copilote, il est aussi important dans un rallye classique, mais dans un rallye raid, c'est plutôt la recherche de la route pour arriver jusqu'au point d'arrivée, quoi. C'est bien ça.
Oui. Ça correspond à à cette philosophie. Moi, je décrirais le rallye moderne, le rallye type Monte Carlo, que ce soit sur asphalte, Monte Carlo, neige, ou sur un rallye terre en championnat du monde, enfin, peu importe dans quelle catégorie. On a les parcours qui sont connus, on reconnaît le parcours. Le pilote donne des notes à un ou une copilote qui est à côté de lui. Et cette personne-là, elle récite une leçon quand on est en compétition en version chronométrée. Elle lui indique chaque virage que le pilote lui a énuméré quand ils sont passés en connaissance. Ça, c'est le rallye classique.
D'accord.
Sur du rallye raid, on a le parcours qui est inconnu et on a un roadbook, papier, tablette, numérique, peu importe dans quel format. Et cette particularité fait qu'on a des câbles, on a des distances à respecter, mais on ne maîtrise pas et on ne reconnaît pas, on ne sait pas où on va. Donc c'est beaucoup plus d'appréciation, la vitesse est moindre puisqu'il peut y avoir des dangers, une route sinueuse qui n'est pas indiquée sur le roadbook, et donc c'est complètement différent, et l'enjeu du copilote est pour moi plus importante sur les rallyes raids que sur le rallye classique.
D'où d'avoir quelqu'un de confiance à côté, quoi.
D'où, après c'est une confiance mutuelle, parce que la copilote ou le copilote doit avoir confiance l'un en l'autre, et je pense que les copilotes ont moins peur en rallye raid. Enfin, pour moi, c'est mon image. Après, on parlera peut-être. Je pense qu'ils ont moins peur en rallye raid. Et c'est plus nous qui avons peur qu'ils se trompent et qu'ils n'annoncent pas le bon danger, etc. Alors qu'en rallye classique, je pense que c'est les copilotes qui ont plus peur. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est mon image.
On arrive en hélico, ça pète comme Enrico. Mais mon première c'est trop hala en écho. Millions d'euros de déco, sans pas jaja, c'est ma pinko. Moi je prends des selfies jusqu'à Porto Rico.
J'avais la NG, jolie jusqu'à l'Engie. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à l'Engie. Et la Zina elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce
toi, tu, par rapport à ton parcours de sportif que tu nous as un peu énuméré juste avant, du ski, il me semble que... Alors, Axel s'est maquiné. Elle s'est occupée de mon genou, de mon dos, enfin, de mes côtes. Elle a essayé de me réparer, et ma famille aussi au passage, elle a essayé de me réparer comme elle a pu. Donc toi, tu as dit que tu venais du ski, il me semble de l'escalade
ouais,
aussi.
De Parou, où je viens d'une région dans les Alpes, quoi. Ouais. Donc il y a des stations de ski, donc je suis plus dans la randonnée, l'escalade, le ski.
Ouais, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené au sport auto? L'amour?
Non, alors, pour la petite histoire, la passion du rallye est familiale aussi.
Ah,
c'est-à-dire que là où mes parents habitent, il y a une petite route qui a été qui est très sinueuse et qui était la base d'essais Pirelli pendant des années.
D'accord.
En fait, Pirelli venait chaque année avec c'est des pneus. Oui,
oui.
C'est,
ouais, effectivement,
c'est,
ce sont des pneus.
Ça, ouais. Une
c'est
pneus.
Une marque de pneus. C'est pas qu'un
oui,
calendrier.
Au passage de l'Inter.
Une marque de pneus venait chaque année tester des pneumatiques sur une route, des pneumatiques de compétition. Et du coup, Colin McRae, par exemple, est venu. Il y a des pilotes réputés qui sont venus. Et quand j'étais gamine, c'était la route du Mas, elle est fermée. Il y a Pirelli qui va venir. On prenait tous les vélos. Et hop, on allait et on pouvait. C'était le terrain de jeu gratuit, quoi. T'avais le circuit, les 5 km de piste, enfin de route, étaient fermés et les pilotes s'entraînaient. Nous, c'était un régal. Quand t'es gamin, on vivait dans un petit bled, t'as 50 bagnoles qui arrivent, qui roulent, qui usent des pneus. Et puis mes parents. On est toujours allé voir le Monte Carlo, on est toujours allé voir des rallyes. Donc j'aimais beaucoup ça. J'aime beaucoup ça et c'est vraiment une histoire aussi familiale, quoi.
D'accord.
Mon grand-père est un passionné de sport automobile. Donc c'est une passion qui est déjà ancrée dans la famille, quoi.
Donc, et après avoir rencontré Mathieu, tu t'es mis au copilotage, du coup?
Ben non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est... Mathieu, je l'ai rencontré, donc il était déjà pilote de rallye. C'est sa sœur, sa copilote en rallye. Donc ils font pas mal de rallye dans diverses catégories. Et de temps en temps, il me disait ah, tu veux pas te mettre dans le baquet, tu veux pas essayer. Moi, je dis mais non, enfin. Je sais pas comment te dire, t'as le lièvre et la tortue. Lui, il a un niveau déjà, il roule très vite. Pour son niveau, toi, tu arrives là, j'ai jamais fait. Il faudrait que je commence avec quelqu'un qui roule arrêté, quoi, pour pouvoir apprendre. Je sais son niveau d'exigence, il est très compétiteur, donc je me sentais pas à la hauteur d'être à côté de lui dans la voiture de rallye classique. Et du coup, il y a eu ce débat, on passe pas assez de temps ensemble, avec le boulot, avec ci, avec ça, ça serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Et si on faisait du rallye raid, et c'est parti un peu comme ça, quoi. Et puis, on en parle un peu comme ça, et puis il y a le buggy, et puis on le bricole, et puis on arrive à faire quelque chose, et puis on s'inscrit, et puis on y va.
Et alors, avant d'enregistrer le podcast, tu peux nous réexpliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir copilote? Parce qu'on ne peut pas devenir copilote comme ça sur un rallye raid. Après, on parlera de quelles compétitions vous avez fait ensemble, mais comment est-ce qu'on devient copilote sur un rallye raid officiel? Du moins...
Niveau de licence, tout ça.
Voilà. Tu nous as parlé que tu avais passé un stage.
J'ai passé un stage parce qu'en fait, la première compétition qu'on a faite, c'était une compétition internationale. Et donc, pour faire une compétition internationale, tu es obligé d'avoir une licence internationale. Sauf que pour obtenir une licence internationale en France, à la FFSA, tu es obligé d'avoir déjà pratiqué du rallye. Mais même si tu as fait, le rallye de Manosque, quoi, c'est OK. Mais sauf que moi, j'avais jamais fait de rallye. Et donc, du coup, pour obtenir la licence internationale, j'ai dû faire un stage de tout terrain, 4x4, franchissement. Enfin, c'était très intéressant, tu vois, mais c'était...
Pas forcément lié à...
Au final, oui, parce que on va dire que c'est du off-road. Mais moi, je suis copilote, voilà. Donc tu vois, le passage de pont, croisement de pont. Enfin, moi, genre,
mais surtout que c'est un truc que tu as fait toi. Tu étais au volant sur ces trucs-là.
Oui.
Voilà. Donc,
ah oui, oui, j'étais
pour
en.
Du copilotage.
C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Oui. Mais bon, ça, c'est, bon, c'est des formalités administratives. Vive la France.
Et donc, du coup, tu as passé cette, on va dire, cet agrément international. Ouais. Et après, donc, du coup. Alors...
Bah, tu as ta licence. Puis tu t'inscris.
Et comment a commencé alors votre collaboration ? C'était sur quelle compétition ? Quel a été votre parcours après ensemble ?
Ben, donc, il prépare le véhicule avec son père qui nous a vraiment beaucoup aidés, qui s'y connaît beaucoup en mécanique. La voiture, elle est prête. Et puis, ça s'approche du rallye d'Andalousie. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va, on n'y va pas ? Ben, allez, hop, on y va. Donc... Rallye d'Andalousie 2020, c'est en octobre, et voilà, bah, on part en Espagne.
Et niveau du rallye, du coup, comme pour un Monte Carlo, 4 jours, c'est ça à peu près, du jeudi au dimanche.
Là, sur Rallye d'Andalousie, c'est un format d'une petite semaine.
D'accord.
4 ou 5 jours de course, ouais. Je le sais plus précisément. Et l'Andalousie, c'est un rallye type rallye raid qui est parti des manches de championnat du monde de rallye raid. Et c'est plus un rallye raid type Baja. Le terme Baja est assez, assez méconnu, mais c'est un rallye raid de vitesse. Donc ça s'apparente énormément au rallye que je faisais moi auparavant. Donc c'était bien aussi pour moi, parce que moi c'était une découverte aussi de cette nouvelle discipline. Conduire, avoir un volant, bon, je savais faire.
Ça faisait une bonne transition. Ouais.
Voilà, ça nous a permis à moi de me rassurer, d'avoir une vitesse que je reconnaissais sur les rallyes habituellement, et à Axel d'avoir un peu moins de navigation, et un rallye un peu plus simple à aborder, pour tranquillement, un peu moins de stress.
Ouais, prendre vos marques.
Aborder la partie équipage, dans l'environnement du buggy, il faut prendre ses marques. Rien que le stress d'être sur le point de départ, ta radio elle fonctionne, tu as mis ton point à zéro. Enfin, il y a des ouais. process à avoir, des automatismes à avoir. Ouais. Et c'était très bien d'avoir un point de départ sur ce type de rallye. Tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses nouvelles quand tu débarques. Bon, déjà, toute la formalité... administratif, tout le matériel, tout l'équipement, tout. Enfin, moi, je découvre tout. Du coup, là, les vérifs, Mathieu connaît parce qu'en championnat du monde, dans les rallyes, c'est déjà beaucoup ça. Mais tu as des vérifs, tu as du matériel spécifique, tu es obligé d'avoir les vêtements inifugés, tels les chaussettes, les collants, les vêtements, la cagoule, ouais. Tout l'équipement est obligatoire. Ils notent tout, les références. Tout ça, donc tout ça, bah, c'est nouveau. Après, bon, bah, c'est le moule, hein. Il y a une liste, une checklist, tu t'y tiens, et puis voilà. Et puis après, bah, j'ai à part, trois pauvres chronos quand j'avais 10 ans au club de ski de mon village, j'avais jamais fait une course, quoi. Oui, si, le cross du collège, quoi. Donc, t'arrives au premier bip, 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 et là t'as ton cœur, il fait oh, mais pourquoi j'ai fait ça?
Le décompte qui part.
Bon, ouais. Allez, maintenant tu y vas. Et puis c'est le. Ça dépend de toi en fait. Alors, oui, l'Andalousie c'est une Baja, et du coup, la navigation, c'est pas qu'elle est, plus simple, mais c'est de la piste. Donc, on va peut-être un peu plus développer plus tard, mais du coup, la navigation, il y a des symboles à apprendre. Il y a toute une grille de symboles à apprendre avec tel trait, c'est une piste. Quand c'est des pointillés, c'est du hors-piste. Tel symbole, c'est pour une dune. Tel truc, c'est un caillou. Tel ETR, c'est trois. Enfin, il y en a je ne sais combien à apprendre. Et tu as une liste de kilométrage. Pendant tant de kilomètres, tu as ci, tu as ça. Et tu dois annoncer au pilote et le pilote ne sait pas. Donc, tout à l'heure, il disait que peut-être qu'on a plus confiance. Oui, tu as confiance, mais tu es aussi dépendant de lui si il anticipe le caillou qu'il n'a jamais vu, en fait, puisqu'on n'est jamais passé par là. Et puis, devant toi, tu as eu 10 bagnoles qui ont gratté des pierres. Et puis, il y en a un qui a crevé. Du coup, il s'est mis légèrement sur le côté. Il faut l'éviter. Enfin, il y a plein de choses à anticiper. C'est une réelle confiance, quoi.
Donc, du coup, Andalousie, après l'Andalousie,
Bah, l'Andalousie, on y va. On arrive avec notre buggy amateur complet. On sourit gentiment, on se dit « Bon, qu'est-ce qu'ils font ce lac ? Ils débarquent de quelle planète ? Ils n'y arriveront pas ?» Et puis finalement, on se débrouille quand même. Enfin, ça se passe bien. Moi, je me débrouille. Je suis même étonnée de me débrouiller aussi bien. Et puis, on termine. Je ne me souviens plus le classement. Mais bon, bref, on termine, on finit le rallye. Et de là, on se dit... Enfin, Mathieu, surtout, se dit...
C'est le moteur.
On a fait celui-là, tu vois, t'es capable, tu y arrives. On va au Dakar.
À direct.
Ouais, voilà.
Plus petit.
Sans transition. Mais pourquoi pas donc le Dakar direct.
Oui, on est en octobre, on a fait la première découverte ensemble de cette discipline. Et... ça s'est pas tout bien passé, il y a un rodage à faire, etc. Mais la première marche était acquise et on n'a pas trop le temps. Moi, j'ai peur de mourir rapidement, en fait. Je me dis que j'ai peu de temps à vivre. Mais j'y pense souvent. C'est comme ça. Et donc, je me dis qu'il faut y aller. Et d'une part, peut-être ne plus être là. Ou alors, d'autre part, on se rend compte qu'il y a des compétitions qui sont annulées, des Dakar qui ont été annulés par des problématiques politiques, par des problématiques de terrorisme. Donc, le Dakar avait lieu depuis un an en Arabie Saoudite. Et je me dis, bon, on y va. Après, il fallait bien prendre le départ. On avait pris un premier départ et le Dakar, c'était juste un coef multiplié par 3 ou 4 sur la durée de la course par rapport à l'Andalousie.
Le Dakar, ouais. Que pas tout le monde connaît, c'est combien de jours, la distance totale ?
Dakar,
tu peux nous faire un rapide brief ?
C'est entre 10 et 12 jours de course.
Ouais.
C'est entre 6 et 8 000 km.
Le profil, donc sable.
Sable. Ouais, profil sable, terre, tout dépend les pays qui sont traversés dans le Dakar. Parce que le Dakar, pour l'histoire, était au départ en Afrique. Il a perduré en Afrique pendant plus de 20 ans, 30 ans, je sais pas, je suis pas spécialiste des dates d'ailleurs.
Gros problème géopolitique.
Voilà, risque, terrorisme, etc. Mmh. Il a été déplacé. Il a été déplacé en Amérique du Sud, il me semble, le premier déplacement. Et
l'Argentine,
après l'Amérique du Sud, voilà, donc on était vraiment de ce côté du. Et là, ils sont allés découvrir un autre terrain de jeu qui était l'Arabie Saoudite. Et voilà pour l'histoire du Dakar. Les Dakar ont bien évolué. Auparavant, c'était 90% d'amateurs avec sa moto, sa voiture et se réparer soi-même son véhicule. C'était l'âme du Dakar, finalement. Ouais. C'était ça à l'époque.
Bah oui.
Et c'est aussi pour ça que j'ai apprécié, moi, parce qu'en étant petit, on a toutes ces images du Dakar, des galères, des gens. Et puis c'était ça, moi, qui m'attirait. Bon, quand on y vient maintenant, on n'est plus là-dedans. On est dans du business, on est dans tout un autre domaine où on a des grandes équipes qui se professionnalisent et qui ont moins cette ambiance de l'entraide et voilà ça
le côté aventure
petit bricolage le soir et tout ça quoi.
Alors justement, quand vous prenez la décision de partir sur le Dakar, comment on se prépare pour ce genre de compétition? Alors pour toi Mathieu et pour toi Axel, physiquement, moralement, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant.
Comment on se prépare? Bon, nous, on est des amateurs complets, donc on s'occupe aussi de préparer le véhicule, puisque le véhicule, donc on s'engage sur le Dakar.
Sans sponsor.
Tout à fait.
Donc c'est sur vos propres deniers, donc vous achetez le matos, en gros.
Ouais, on se finance. Moi le premier buggy qui a parcouru, donc le premier rallye d'Andalousie, a été acheté aux États-Unis. J'ai importé un véhicule accidenté avec une modique somme. Et ce premier véhicule a été réparé, a été monté avec les pièces compétition pour pouvoir participer à ces épreuves-là. Donc ce premier buggy, on fait l'Andalousie. Une fois qu'on a terminé ce fameux rallye en Espagne, il faut le réviser, puisque bon, il a quand même parcouru 4-5 jours à des vitesses un peu folles.
Il a pris quelques coups.
Exactement. Il est révisé dans l'atelier familial. Et on décide de s'engager. Donc là, vient... le moment des inscriptions,
Axel qui te dit OK.
Formalité. Axel qui me dit pas OK de suite, mais qui se sent un peu obligé au début peut-être, et puis qui au fur et à mesure accepte le truc et puis je pense qu'on a vécu une belle histoire. Donc voilà, ça c'est la partie formalité du Dakar. Les véhicules embarquent, on a la chance, ils embarquent à Marseille. Ils embarquent au port à Marseille généralement début décembre, fin novembre. Donc entre le rallye d'Andalousie qui se réalise en octobre, ça laisse très peu de temps. Ouais, faut que les véhicules soient révisés, préparés, améliorés, parce qu'il y a toujours des choses qui fonctionnent.
Et la course qui commence ?
Et la course qui commence entre le 1er et le 2 janvier.
Ouais.
Voilà, okay. Voilà un petit peu.
Alors, mais du coup, toi, ta préparation physique, tu es quelqu'un qui a l'air de faire pas mal de sport à côté, donc j'imagine que tu continues ce maintien-là. Parce que, voilà, on peut penser que le pilote, il est... Alors, je vais dans le cliché direct. Il est assis, il n'y a pas forcément besoin de préparation physique, chose qui est totalement fausse parce qu'avec ce que tu encaisses en termes de coups, de concentration, c'est quand même hyper physique, voilà, hyper physique moralement et aussi pour ton corps, quoi. Donc, si tu peux nous expliquer comment toi tu te prépares à ce moment-là.
Mais moi, je n'ai pas le temps de me préparer, donc je ne me prépare pas.
Ouais. Ouais.
Non, mais c'est faut le dire.
Ouais.
J'aimerais me préparer mieux, mais j'ai pas le temps. On travaille, on a tous une vie personnelle, donc c'est très difficile. J'ai de la chance d'avoir encore physiquement, d'avoir des restes peut-être d'époque ou j'en sais rien quand je faisais du sport ou voilà, j'ai un cardio, je suis pas assis dans un bureau toute la journée aussi, donc c'est aussi un avantage. Mais théoriquement, voilà, si tu devais te professionnaliser, si je devais me professionnaliser, il faut une grosse partie musculaire et une grosse partie de cardio parce que c'est du physique sur toute la durée d'une journée multipliée par 10, par 12 journées. Ouais. Et c'est d'avoir une très bonne hygiène et un très bon sommeil parce que tu dors peu, la bonne récup, ça c'est essentiel pour tout le monde pour arriver à mener à bien ce type de discipline. Donc c'est plus ça qu'il faudrait avoir. Et après c'est comme tous les pilotes ou tous les copilotes, c'est la musculature au niveau des cervicales puisqu'on prend énormément de coups dans la journée malgré des suspensions fantastiques, mais le corps il doit en encaisser.
D'accord. Et pour toi Axel,
la préparation du Dakar,
alors mis à part torturer les patients sur la table
de stress,
où tu travailles,
voilà.
Elle est la préparation, les bras,
voilà,
musclés,
voilà, elle force.
Non mais déjà voilà, déjà par mon activité professionnelle je suis quand même assez active, donc voilà. Après la préparation, on a quand même pas mal couru avant le Dakar pour être au moins en cardio un peu plus performant, on va dire. Après, c'est comme Mathieu, beaucoup de boulot, donc pas vraiment le temps d'une réelle préparation.
Puis vie de famille, enfin, vous êtes comment ? Vous avez deux enfants, enfin,
c'est ça.
Voilà, donc
on
c'est,
a deux
c'est...
enfants, et puis le Dakar, c'est tu te prépares, il y a tout à côté. Enfin, il faut prévoir tout ce que tu vas avoir au bivouac. Il y a des étapes marathon, donc il faut prévoir ce qu'il faut pour les étapes marathon. Les étapes marathon, c'est... par exemple, entre deux spéciales, tu rentres pas à l'assistance, tu dois prendre ta tente, ton duvet et tout, et tu dors, tu rentres pas au bivouac. Ouais. Voilà, donc prévoir tout le matériel, prévoir. Et comme tout part un mois, quasi un mois et demi avant, bah, c'est toute une intendance, une préparation, tout ce qui est. On est pas mal aidé par tout le monde, notre famille nous soutient beaucoup, donc des petites choses, ma mère elle m'a fait une trousse à outils avec un tissu renforcé pour que quand on est dans les spéciales, si on a une panne on ouvre et puis on a tous les outils qu'il faut comme il faut, enfin tu vois, c'est un truc, nous c'est vraiment un truc amateur pur, c'est son père qui bricole, mon père qui vient donner la main, tout doit s'organiser autour de ça. On s'en va trois semaines, il faut organiser la garde des enfants. Donc souvent c'est un des deux qui part et l'autre conjoint qui reste. Là nous on part tous les deux trois semaines, donc c'est toute une organisation, donc il y a tout ça. Et au final t'as le boulot à côté et puis tac 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 tac, ah, bah, c'est dans trois semaines, ah, bah, c'est dans là, et puis hop, ça y est, c'est là. Donc la préparation, elle se fait très vite.
Oui.
T'as pas trop le temps de...
En fait, je crois que c'est le rythme de nos vies qui font qu'on est préparé, en fait, encaisser, oui. Parce que ne serait-ce qu'avec les enfants, bon, on ne dort pas forcément tout le temps bien, hein, avec les petites maladies qui traînent au milieu. Et puis le train de la vie, comme vous dites, vous avez quand même deux métiers tous les deux où vous êtes hyper actifs. Donc je pense que la prépa, elle est là. Mais quand tu débarques sur le Dakar, donc tu t'es dit, bon, je me suis mis le pied à l'étrier.
J'y suis là maintenant.
Moi, tu sais que je me rappelle encore. Quand tu m'en as parlé au cabinet, c'était rigolo parce que c'était vraiment, je vais faire un truc de fou, je vais faire le Paris-Dakar. Je fais trop bien, mais
tu n'y as pas cru sur le moment où tu
fais. Alors si, j'ai cru, j'ai dit mais tu as fait le truc d'analogie, tu as fait le Dakar, mais Mathieu me dit le proposer. Alors si, parce que dans la psychologie où j'étais, c'était franchement. Il a trop raison. Pourquoi pinailler et attendre un an ou deux? Autant y aller tout de suite s'il y a l'opportunité d'y aller tout de suite. Mais elle était à moitié convaincue. Je pense qu'elle était à 75%.
Non, mais j'étais à moitié convaincue. J'avais pas vu une dune de ma vie. J'avais pas annoncé.
C'était l'occasion.
Ouais, j'avais pas annoncé un cap. Enfin, tu vois, en septembre, quand j'ai fait la formation, merci Max. Il me sort. Tu connais ta rose des vents? Ma rose de quoi? Pardon? Oui? Et si je te dis cap, on est à cap 10 et je te dis cap 320, tu vas où? Mais je sais pas. Enfin, tu vois, j'étais là en septembre, quoi. Ouais. Et en janvier, j'étais dans les dunes.
Ouais.
Donc, non, je me sentais toute petite. Avant de l'avoir fait les premières fois, je sais pas, peut-être que quand t'es enfant et que tu commences la compétition, t'as l'innocence qui fait que tu. Là, mon cerveau, peut-être, il réfléchissait trop. Mais dans ma tête, je me disais, mais t'imagines, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Oui, un accident, ça peut arriver, des choses peuvent arriver, mais après, on a une balise, on est repéré, ils savent où on est. Au pire, je me perds, et je me perds, quoi. On se fâche parce que je me perds, et alors, puis
oui,
voilà.
Puis comme Mathieu l'a dit, ça s'est, heureusement, malheureusement, mais beaucoup professionnalisé aussi, et donc du coup, bon, beaucoup plus balisé, peut-être...
Non, c'est pas balisé.
Beaucoup plus de sécurité. Il y a
des points de sécurité à respecter. Ouais. Après, ça reste très aléatoire parce que si tu veux, ils te donnent une trajectoire. Si tu passes à 10 mètres de la note qu'ils t'ont dit parce que tu as voulu éviter quelqu'un, il y avait un trou qui n'était pas noté parce que tu n'étais pas censé passer là. Par contre, il y a tout un système de sécurité où si tu te renverses avec le véhicule, que tu vas bien, tu dois appuyer sur un bouton spécifique. Et si du coup l'équipage est trop mal en point pour sonner, du coup qu'il voit que le véhicule est à l'envers ou sur le côté ou plus sur ses quatre roues et qu'il ne répond pas, il t'appelle. Et s'ils appellent et que tu réponds pas, c'est qu'il y a un souci, ils envoient tout de suite quelqu'un.
D'accord.
Il y a un système de sécurité qui est très performant, qui fonctionne très très bien. Tu t'arrêtes parce que tu as crevé. T'es censé signaler aux autres concurrents que tu t'es arrêté comme ça. Les autres concurrents, ils ont une alerte comme quoi il y a un véhicule, mais qu'il n'y a pas de souci.
D'accord.
S'il y a un souci, il y a un bouton spécifique.
D'accord.
Tu dois t'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui sonne, il y a une alerte médicale.
Ou il faut que tu ailles porter secours. Ok. Ouais. Un peu comme en voile ou autre, les mecs qui se signalent, il faut vraiment le plus près.
Ouais, t'as un panneau, tu dois mettre OK, SOS.
Alors, toi, en tant que femme, je pense que c'est un sujet... Bon, forcément, on va te poser la question, mais quand tu arrives en tant que copilote femme, est-ce qu'il y en avait déjà beaucoup? Est-ce que tu étais, est-ce qu'il y a des pilotes femmes également?
Il y a des pilotes femmes, il y en a bien moins que des pilotes hommes. Il y a des pilotes femmes qui sont de très bonnes pilotes femmes.
Ouais.
Ouais, ouais. Il y a une espagnole là qui est très très forte. Cristina Guiterrez, elle est très forte. Elle vient de finir le Dakar là. Des copilotes femmes, il y en a aussi, mais on va pas se mentir, hein, c'est un monde très masculin. Enfin, dans les équipes mécaniciens, mécaniciennes, il y a peut-être trois mécaniciennes sur l'ensemble du bivouac, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu disais que les filles jouent pas aux voitures quand elles étaient petites. Mais alors, du coup, quel était le comment? Est-ce qu'ils étaient bienveillants, encore peut-être plus bienveillants avec les femmes présentes ou au contraire, chose qui serait peut-être normale, ça serait banalisé en disant ce sont des concurrents comme une concurrente comme
une
autre.
Non, c'est comme dans tous les milieux, t'as le mec qui est un peu macho et qui dit ouais, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là, et puis t'en as qui y a pas de problème, t'es une fille, tu vas y arriver comme les autres, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est comme dans
tous. Il y en a qui font pas de différence.
Non. Et franchement. Vraiment, moi, nous, dans les équipes, avec les autres équipages, là, quand on a fait le Dakar, j'étais la seule fille de notre équipe, on va dire. Ben, aucune différence. Quand on est parti tous les deux dans la même voiture. Et puis, dans notre équipe de mécaniciens, il y avait d'autres véhicules.
D'accord. Parce que oui, c'est ce qui se fait. Donc, il y a plusieurs véhicules pour quelques mécaniciens qui vont s'occuper des quelques véhicules. Okay, d'accord.
On partage des mécaniciens, on va dire.
Oui, et quelque part, vous partagez les coûts aussi, quelque part, de réparation, de matos et tout. D'accord.
Et donc, oui, non, il n'y avait que des hommes avec nous. Et non, ça se... Mais vraiment, au contraire, tu vois, justement, j'étais novice. Patrice, avec qui était le copilote à Jean-Pascal, il était super, de bons conseils. Moi, il y avait des trucs que je découvrais, donc t'es pas en confiance. Tu dis, je suis plus sûre, je me souviens pas de ça. Attends, je te remontre. Puis même lui, puis quelque part, ça te rassure. Il te dit, toi, t'as fait la formation il y a pas longtemps. Tu te souviens comment on fait ça? Il y a beaucoup de choses très... Quand t'arrives, tu débarques, tu dois apprendre plein de choses. La première année, il y avait des roadbooks papier. Maintenant, il y a des roadbooks tablettes. Il y a une télécommande, des touches spéciales. Il y a des manips à faire.
Alors, juste pour nos auditeurs, le roadbook, c'est un... Là, je l'ai sous les yeux. C'est une sorte de grand calepin dans lequel il est indiqué précisément les consignes de navigation sur la route que doit lire le copilote au pilote, tout simplement. Alors, et justement, alors... En tant que copilote, quand on est en couple dans la même voiture,
oui.
Comment se passe l'entente? Parce que alors, moi, pour la petite anecdote, j'ai fait la descente des gorges de l'Ardèche en couple, ce qui peut être vite conflictuel. C'est-à-dire que si tu prends un rocher, que tu ne prends pas bien rapide comme il faut, j'ai été souvent, parce que je conduisais le canot à ce moment-là, j'avais jamais piloté avant. Donc après, ça allait mieux vers la fin, mais au tout début, j'avais... quelques petites remarques sur mon pilotage qui était un peu approximatif. Donc là, comment ça se passe quand on est en équipage sur...
Mais ça peut très bien se passer.
Mais pourquoi ça part? Pourquoi le verbe
mais parce pouvoir, que là... Non, ça s'est passé très bien à plein de moments. Et puis, il y a des moments où ça s'est moins bien passé. Il y a eu des petits accroches, quoi.
C'est-à-dire que si tu n'avais pas indiqué le caillou...
Comme il faut.
Le fameux
caillou. Alors il a passé trop vite un caillou que j'ai considéré qu'il fallait passer moins vite.
Ou elle pensait qu'elle... Alors, on va la jouer parité, on va passer un peu le micro à Mathieu. Entre nous, bon là on est trois mecs face à Axel. Bon, franchement, elle n'avait pas indiqué le caillou.
Le grain de sable qui avait bougé.
Bon, je me souviens pas de l'histoire,
moi je te crois.
S'il y a une erreur de navigation... c'est pas forcément le pilote, du coup. La navigation n'a pas été faite correctement.
Quoi. C'est peut-être celle qui a le cahier, quoi.
À un moment donné, tu te bats à la seconde pour attraper le gars devant toi. Donc, tu vas le plus vite possible. Et ça fait chier quand tu sais pas où tu vas parce que la copilote, elle sait pas où on va. Et on tourne en rond pendant 15 secondes. C'est pas énorme. Mais en fait, t'en as perdu... T'as essayé d'en grappiller 3 et t'en as perdu 15. Donc, voilà, ça peut être...
Parce qu'elle a trouvé un peu difficile. Une page ou quelque chose, quoi.
Non, mais c'est même pas une page. Après, attention, c'est vraiment difficile. Moi, je conduis, c'est difficile, j'imagine. Parce que je dois aller le plus vite possible. Elle doit apprécier sur son roadbook, imaginer où est-ce qu'ils ont voulu nous faire passer sans faire d'erreur.
Petite question d'ailleurs par rapport au roadbook. Du coup, tu passes tout ton temps la tête dedans ou tu peux quand même brader un peu la route? L'idée, c'est que le
alors, roadbook. Tu es très concentré sur ton roadbook. Après, tu as des notes où tu vas dire 3 km, c'est une piste. Donc, tu relèves et c'est toi qui dis, attention, tu vois, il y a un caillou. Attention, tu vois, là, la piste, elle part sur la gauche. Attention, là,
ça... Tu peux repérer un peu, certainement.
Ouais, tu repères un peu. Notamment dans les dunes, tu vas avoir du... pendant 12 km, en sortie, il faut qu'on soit en cap 120. Et donc, c'est toi là qui lui dis, regarde la trace, ça part plus sur la gauche, ça part plus sur la droite. Ah, là, va pas par là, il y a un camion qui est tanké. Enfin, il faut que tu l'aides justement parce que la dune, c'est du... Tu montes, tu descends.
Ouais, puis c'est toujours à peu près le même.
Et puis, il y a du repérage.
Oui.
Ouais, et puis il y a du piège. Tu vas te décaler sur la gauche ou sur la droite d'un sommet. La dune, elle va être beaucoup plus cassée. Derrière, on ne peut pas descendre avec le buggy. Enfin, non, il y a un réel... Après, au Dakar, c'est comme ça. En Andalousie, la Baja, c'est très... t'es dedans, quoi. Parce que tes notes, c'est très, très, très rapide. Je vois...
T'as pas la gerbe?
Ouais, c'est ce que je veux dire.
Et t'as pas le temps.
Ah ouais. T'as pas le temps vraiment.
À la fin. Tout. Je suis malade en voiture quand je lis.
Et même avec les secousses.
Ah non. Jamais. Ah non.
Alors t'es malade en voiture quand tu lis. Oui. Moi c'est pareil. Moi je suis vite malade en voiture.
Je peux pas lire. Tu vois, je regarde mon téléphone quand on roule ou je lis. Je vais avoir mal au cœur. J'ai jamais eu mal au cœur. Et t'as pas le temps, mais c'est pas... En fait, je t'assure, je pensais pas que ce soit... Alors, évidemment que je pensais pas que ça allait être une promenade, tu vois. Mais c'est du... En fait, des petites banalités. Quand j'ai fait ma formation, la personne Max qui m'a fait gentiment cette formation, il m'a insisté sur plein de points. Et je me disais, il tâtonne sur des trucs... Mais notamment une chose toute banale. Il me dit, oui, il faut absolument que tu penses à boire. Oui, ok, ça va, je fais du sport, je sais, il faut boire. Et moi, je suis un peu un chameau, je bois pas trop, tu vois. Et il me dit, mais bois parce que tu vas voir, ton cerveau, il fait tellement de trucs, tu t'es toujours concentré sur plein de choses que tu oublies de boire. Comme tu bois pas, t'es pas hydraté, t'arrives plus à te concentrer. Et du coup, je m'étais un peu focalisée là-dessus. Bois, tu annonces 4 notes, tu bois, tu annonces 4 notes. Mais il faut le faire. C'est-à-dire que ton cerveau... Tu es là, tu dois annoncer la note, tu dois calculer. Alors, tac, dans 300 mètres, il y a ça, dans 200 mètres, il y a ça, dans 1 km, attends, non, il faut que j'enlève, attends, machin, attends, truc. Et t'es tout le temps en train de regarder.
T'es tout le temps en train de parler en plus.
Ça part, t'es boum, ça part, et tu fais 250, 300, 350 jusqu'à 510 km de spécial.
Mais vous arrivez dans quel état là? Parce que toi, c'est une hyper concentration. Tous les deux, c'est une hyper concentration.
Ah, mais lui, il est hyper concentré aussi.
Toi, sur la... Oui, non, c'est ce que je dis, mais Mathieu est très concentré sur la route. Au moindre à-coup qui n'était pas indiqué ou qui est sorti. Comme tu dis, il y a peut-être 10 bagnoles qui sont passées juste avant lui, qui ont relevé une pierre ou qui ont provoqué un trou. Donc, il est hyper concentré aussi. Puis toi, tu es hyper concentré sur les consignes que tu donnes. Comment vous arrivez à la fin d'une étape? Épuisé?
Bon, non, pas tant. Enfin, si, oui, fatigué, mais.
Easy, quoi.
Non, mais pas easy. Bah, il y a la spéciale, comment elle s'est passée. T'as eu des galères mécaniques. Ça dépend le profil de la spéciale, ouais.
Puis t'as l'adrénaline qui te maintient.
Tu t'es fait ça, et puis ouais, t'arrives, t'es encore dedans, tu vois. Tac, ouf, tu vois le, il te colle ton étiquette d'arrivée là. Allez, vous pouvez retourner. Et puis en fait, t'arrives, c'est pas fini. T'as 200 bornes de liaison pour retourner au bivouac.
Ah oui, sympa.
Voilà.
Ça, on le voit pas dans l'envers du décor. Donc, tu de finis ta spéciale.
La prochaine note est dans 110 km. Ça sera en passe sous un pont.
Ça serait pas intéressant d'intervertir à ce moment-là.
Tu peux, ouais. Voilà. T'as le droit. Ouais.
Ouais, mais c'est ce que j'ai vu sur le roadbook. Il y a jusqu'à 400 et quelques ans. Puis la page d'après, il y a
une liaison.
C'est pour rejoindre le bivouac.
Le matin, tu pars du bivouac. Tu fais de la liaison pour aller au départ de la spéciale. Tu fais ta spéciale. Tu arrives à ta spéciale. T'as fini, tu refais une liaison pour aller au bivouac du soir qui est le même peut-être que celui d'avant, ou alors t'es allé à un autre endroit.
D'accord, oui, parce que tant que t'as fait une boucle, c'est ça, et t'es revenu. Voilà. Ok, d'accord.
Ouais, pour aller s'amuser dans les dunes profondes, quoi.
Donc ce premier Dakar, ça donne quoi à la fin de ce premier Dakar?
Ben, ça donne qu'on casse le moteur à la 11e spéciale sur 12.
D'accord.
Donc un peu déçu, parce qu'on s'était...
Ah, donc vous l'avez pas...
Non, on n'a pas pu terminer, on a cassé le moteur, ouais.
D'accord. Donc, à la 11e étape,
c'était un peu décevant. Enfin, ouais, t'es déçu forcément. On a eu énormément de péripéties pendant les 11 jours. Mathieu, parce que c'est Mathieu, franchement, il est vraiment très très fort en mécanique. C'est le MacGyver, quoi. Et les 5 premiers jours, ça a roulé. Et puis au 5e jour, on a eu un problème mécanique. On a attendu, on a réparé. Il y a eu un problème d'organisation, donc on a réparé. Et quand on est arrivé pour finir la spéciale, il fallait qu'on fasse un refueling, parce qu'au milieu des spéciales, si tu veux, quand on part en spéciale, on n'a pas assez de carburant pour faire toute la spéciale, et on a des zones où on ravitaille.
Okay.
Et en fait, donc, on a eu une panne, on répare la panne, on arrive pour le refueling, il y a eu un couac d'organisation, le refueling était parti. Donc on arrive, il nous dit... Là, vous pouvez pas repartir, vous pouvez pas terminer parce que vous avez pas assez de carburant. Mais si vous passez par la route, vous abandonnez. Alors, continuez, mais vous allez tomber en panne. Bon, on fait ça, donc on continue. Du coup, on reste coincé parce qu'on n'avait pas assez de carburant, en panne d'essence. Donc, on dort dans les dunes.
Oh, génial.
Entre l'étape 5 et l'étape 6. À 5h du mat, l'Orga nous amène du carburant. Puisqu'ils
vous
étaient
pas
un...
obligés de terminer la spéciale le jour même pour pouvoir continuer.
Normalement, oui, mais comme là, il y avait eu une erreur de l'Orga, ils
ont,
ils ont été.
Enfin, oui,
ils ont développé le truc, quoi.
Ouais, mais, ils auraient... ouais, mais regarde, ils auraient pu être rigides comme ils ont dit.
Oui, non, mais
tu continues ou tu passes par la route, tant pis pour toi.
Non, alors après, au Dakar, t'as une sorte de joker, on va dire.
Ok.
C'est tellement. On va, je pense compliqué, c'est que il y a une pénalité, mais si tu es en panne un jour, tu peux repartir en, comme super rallye le jour d'après, en fait.
D'accord.
T'es plus classé dans le classement officiel, mais tu peux quand même continuer la course. Mais là, nous, on repart ce jour-là. Du coup, on n'est pas on continue la course, sauf que on a dormi.
À la Belle Étoile.
À la Belle Étoile, on n'a pas révisé. Enfin, le matin, Mathieu fait la révision du buggy. Avec le compresseur d'un camion, il souffle le filtre à air, il regarde que tout aille bien au niveau mécanique et bazou, allez hop, on a dormi une heure dans un stade à côté de Serra Dori là et hop, on y retourne.
Donc tu parlais de la qualité du sommeil, donc une heure ça fait vraiment peu, j'espère que c'était une bonne heure.
Alors ben, c'est... après c'est ça, il faut, tu y vas, le Dakar... tu dors dans ta tente, le soir tu es au bivouac, tu défais ta tente, tu gonfles ton matelas, tu dors, tu as le bruit du bivouac en continu, des compresseurs partout. Les mecs, ils font... la nuit, c'est la mécanique des voitures, quoi. Donc, et toi, tu dois dormir. Donc tu dors. Puis c'est... en fait, tu es fatigué.
Après,
donc tu dors.
C'est l'aventure du truc. Donc...
tu dors.
Oui, oui. Alors, ce que disait Mathieu, c'est qu'il y avait certains qui étaient en dents de Quechua et puis et d'autres peut-être beaucoup mieux équipés. Et presque limite, il y a l'eau courante et tout ce qu'il faut avec, mais voilà.
Oui, après, c'est organisé quand même. Il y a un bivouac, hein, tu as une douche, tu as... il y a de l'eau chaude, il y a des bons repas, il y a une très bonne ambiance.
Donc, tout ce qui est repas, tout ça, c'est tout compris dans le dans
ouais, c'est l'organisation, ouais. Il y a un gros staff médical, il y a un gros... il y a une organisation de dingue, c'est vraiment un truc...
Oh, putain, c'est un truc qui est...
Donc, vous le terminez au 11e étape. Et du coup, vous en avez fait d'autres après derrière de rallye ?
Oui, on a refait l'Andalousie en juin après.
Ouais.
Ça. Qu'est-ce qu'on a fait en Andalousie ? On a fait un tonneau. Voilà, on a fait une erreur de pilotage.
Vas-y, passe le micro. Ouais.
Du coup, c'est pas on, c'est juste pilotage. Oui.
C'est... on a gagné.
Elle a attrapé le volant.
On a cassé.
Elle a attrapé le volant à ce moment-là. Je crois.
On a cassé le. On a cassé le. Non, j'ai cassé le buggy Andalousie numéro 2, c'est ça. On était très bien classé. On était dans les premiers en vitesse pure. C'était très bien. Et puis je sais pas ce qui s'est passé dans une spéciale où on était passé deux fois, donc enfin là je la connaissais la spéciale, c'est très étonnant d'ailleurs, et on tape je tape dans un petit muret en béton et ça nous arrache la roue avant et ça nous fait partir en tonneau et voilà, donc difficile de réparer, on est sur le bord, on remet le véhicule sur les roues. Et puis on répare quand même, on sangle, et puis on rentre, on sort. Bon, là on n'allait pas au bout de la spéciale, on est rentré par la route, on a réussi à ramener le buggy, et l'Andalousie s'est terminé comme ça. Voilà.
Et après l'Andalousie, alors il n'y a pas eu un épisode russe aussi ?
Après l'Andalousie, ouais, c'est ça, le Silk Way Rally, c'était prévu un départ en Russie.
Une course connue, ça.
Pour arriver
sur
la route de la soie, ouais, c'est ça, exactement. Pour arriver sur, c'est quoi le pays ? La Mongolie.
D'accord.
Il me semble bien. On devait arriver en Mongolie, faire le grand, je sais plus comment ça s'appelle, le grand désert de...
Gobi, non ?
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et on participe à cette compétition.
Il n'est pas que Laurent Baffi, c'est aussi les Gilo Pétré, parce que tu veux, il a une connaissance géographique.
Gilo Pétré,
bah, c'est le seul
météo.
C'est le seul mec au niveau géo.
La
qui
météo,
venait.
Rien à voir.
Oublions ça.
Géo.
Salut à toi.
Une fatigue.
Donc Russie, Silk Way Rally, on s'inscrit, un peu le même principe, un peu toujours dernier moment, bon, on n'a qu'une vie. non, mais c'est ça, et puis finalement, on se rend compte maintenant que je pense qu'on ne pourra plus jamais y aller en Russie.
Oui, bah, c'est ça, vrai, ça, c'est vrai.
Ça va être un peu compliqué.
Après, ouais. Si tu peux y aller, mais oui, ça peut être un peu dangereux, voilà.
Voilà, donc si au final, moi, je suis content d'y avoir participé pour la dernière.
C'est souvent pour
occasion.
Les dernières, hein, que tu passes.
Voilà, c'est ça. C'est ma dernière heure, hein. Pareil. Faites gaffe en sortant du portail.
Donc, j'ai un chien hyper féroce aussi, au cas où.
Donc, voilà, Russie, on participe à cette compétition. Donc, on a un peu plus d'espérance. On a fait déjà deux trois rallyes. Et on est arrêté dans cette compétition par l'organisation. On doit passer en Mongolie et entre les États mongols et puis la Russie, problème politique, sous couvert de Covid, sous plein de choses qui sont, on ne saura jamais la vérité au final. On a interdit à l'organisation russe de pénétrer dans la Mongolie, et alors que le rallye était deux tiers en Mongolie et un tiers en Russie. Donc on avait fait 10% du rallye en Russie, et pour maintenir la compétition ils nous feront reprendre les traces dans l'autre sens pour continuer à faire des kilomètres et valider cette épreuve là en championnat du monde. Bon, c'est la partie administrative, mais pour qu'elle soit comptabilisée pour les grandes équipes professionnelles, quoi.
Et le profil de ce rallye step beaucoup.
On n'a pas pu atterrir donc en Mongolie dans ces fameuses grandes steppes et mongoles, comme on appelle ça. On est resté en Russie. Russie, paysage dans cette partie de la Russie pas super fantastique, assez linéaire, assez plat. C'est pas extraordinaire. On a fait beaucoup de routes. En fait, on était au début du rallye, on était dans le lancement où on avait des épreuves chronométrées assez faibles, des grandes distances de route liaison pour pénétrer en Mongolie et avoir à ce moment-là des grands espaces, et on n'y est jamais allé.
Si, la dernière spéciale, on était en frontière de Mongolie et justement on a pu un peu toucher ce qu'on a raté du coup, et c'était absolument fabuleux, quoi. On a fait l'étape marathon, là on a dormi sur un plateau à 3000 d'altitude, un truc magique, quoi, des étendues de... des grandes étendues, des montagnes, et là tu te dis pétard, on est aux frontières et tout ça pour des problèmes politiques, là on va pas pouvoir y aller.
À ce moment tu le savais
Oui. Alors en fait, si tu veux, t'arrives sur le rallye, tout le monde te dit, ah de toute façon il y a tout le monde qui dit que ça va peut-être pas se faire, ça va pas y aller, et puis tu sais, leurs gars ils sont un peu timides, ils vont pas te dire les gars vous êtes venus et puis finalement
vous êtes venus pour rien,
enfin, on est quand même en Russie, t'envoies ton véhicule là-bas, c'est pareil, hein, t'as toute une infrastructure,
c'est un pays qui est connu pour sa communication aussi quand même, la Russie c'est assez je pense qu'il dévoile pas mal de choses,
et puis
très ouvert comme pays,
surtout la Russie reculée encore pire,
et puis on était en période Covid encore, et la Russie était un pays rouge, donc nous quand on part à Marseille et qu'on a des billets pour la Russie, ils veulent pas nous laisser partir, quoi.
D'accord, carrément.
Ah ouais, il a fallu qu'on monte notre licence, comme quoi, enfin, presque on a dit que c'était notre métier, alors que c'est pas vrai, tu vois, mais sauf que sur la licence, c'est marqué licence internationale, alors ça fait...
Oui, petite question, justement, on parlait de transport à l'instant. Transport quoi, bateau, avion, ça dépend ou,
Tu parles nous ou pour le véhicule ?
Pour le véhicule, ouais, pour le véhicule.
C'est vrai, ça.
Pour l'Arabie Saoudite, c'est bateau.
Oui, le petit mois qu'il faut pour qu'il rejoigne.
Pour le Dakar, le commun des mortels, tous les gens classiques ont leur véhicule qui part en bateau. Nous, l'année dernière, on l'a envoyé en avion parce qu'on était très très juste en délai entre le moment où tu dois avoir ton buggy prêt, etc. L'avion, tu l'envoies aujourd'hui. Arabie Saoudite, c'est 4-5 heures de vol. Et ton buggy est là-bas le lendemain. Donc c'est beaucoup plus fantastique. Ça te donne plus de temps pour préparer et avoir ton
véhicule
en état.
C'est ça.
Donc là, voilà, c'est avion, bateau, toutes les équipes professionnelles avec des moyens démesurés, ils y vont en avion.
Oui, forcément.
Voiture en avion, 2 tonnes. Et puis,
mais là, du coup, pour la Russie ?
La Russie, ça part en véhicule en poids lourd.
D'accord.
Ça part en semi-remorque.
Ouais.
Et après, la Russie, c'était un rallye international. Il y a toute nationalité qui y participe. Donc, ben, nous, les Européens, on se retrouve à plusieurs camions en France, enfin les Européens, les Français. Et sur le chemin de la Russie, chaque concurrent qui souhaite intégrer, il rejoint un convoi et divers points de ralliement pour remplir les semi-remorques et atteindre le point de départ qui était je ne sais plus où en Russie, à Omsk, ouais. Ouais. Très donc connu
ouais,
d'ailleurs.
Ouais. Mais
oui, pour sa station balnéaire, c'est ça
ouais. Non mais après, ouais. Ouais, parce que le transport en camion, il met combien de temps pour y aller de plus
pense,
de deux semaines
pense quoi, je pense qu'ils avaient mis 15 jours au moins, ouais. Ouais, 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 c'est ça, au minimum. Ah, ah ouais. Ouais.
Ouais. Une sacrée trotte quand même. Ouais.
Ouais, ça fait une belle aventure parce que autour de tout ça, il y a des équipes, des chauffeurs poids lourds qui vivent aussi cette aventure. C'est extraordinaire. C'est souvent justement des personnes passionnées qui vivent le rallye à travers en étant présent, sans être présent au volant en compétition, mais qui sont dans l'intendance.
Ouais, c'est ça.
Des retraités qui ont un peu de temps et qui justement.
Ils veulent encore vivre leur passion. Exactement. Et ils la vivent comme ça. Quoi.
Je trouve que c'est aussi
une chose. Ils partent en camping-car, ben là ils le font en camion. Et puis ils
mais ça, c'est vraiment quelque chose dans ce milieu-là que moi j'ai beaucoup aimé. C'est que, oui, évidemment, il y a des équipes sportives et il y en a qui sont là pour le sport et pour gagner. Mais tu as tout ce côté vraiment de convivialité, d'entraide. Ouais, je te vois hocher la tête, il n'y a pas que ça, je suis d'accord, mais on a quand même rencontré de vraiment très belles personnes, contentes de transmettre leurs trucs, contentes que des jeunes se mettent au rallye raid, contentes que, même que ce soit là, je pense à Serge, tu vois, Serge, ma petite, enfin, tout content que ce soit une femme qui se mette au rallye raid, enfin, des choses super sympas, tu vois, que tu as. Pas forcément dans tous les sports non plus quoi.
Ouais, bah après tu partages une aventure aussi donc c'est.
Oui faire, après il si y a ce côté là, aventure où tu pars à un endroit on vit tous ensemble, on mange tous ensemble, on dort tous ensemble, on est c'est il y a une cohésion forcément.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze.
On va parler un petit peu de toi, Axel. Du coup, là, ta carrière est mise entre parenthèses. Je vais vraiment mettre la parenthèse.
Non, mais j'ai pas une carrière, arrête.
Oh, arrête un peu de négliger. Enfin, tu as fait quand même un rallye Dakar, je te rappelle.
Deux.
Hein ?
Deux.
Oui, quand même, c'est pas mal. Et donc, tu as eu un accident hors compétition, bien évidemment, et qui a mis entre parenthèses ta carrière.
Oui.
Alors, est-ce que tu as eu quand même... De gros dégâts corporels par rapport.
Ouais, j'ai eu une fracture des vertèbres.
Ouais, ce qui n'est pas. Voilà, quand on prend autant de secousses dans la nacelle de pilotage, donc c'est pas forcément recommandé de reconduire. Alors, là où je voulais en arriver, enfin pas de reconduire, d'être.
Je t'ai pris pour un chirurgien.
Non, mais d'être dans le véhicule. Non, là où je veux en arriver, c'est que tu as un métier où tu soignes les personnes, donc forcément, toi, quand il t'arrive ce genre d'accident-là, tu sais plus ou moins par quoi tu vas passer pour revenir d'une telle blessure, et tu sais aussi ce que tu vas pouvoir faire ou ne pas faire. Alors, quel a été un petit peu, parce que tu as commencé à prendre goût à la compétition et au rallye raid, quel a été ton état d'esprit à ce moment-là? Comment as-tu vécu?
C'est ça, paradoxalement, quand j'ai eu mon accident, ma première question, à part mes enfants, comment je vais faire, c'est combien de temps je vais être arrêtée? Combien de temps je vais pas pouvoir faire de course? Alors que tu vois, spontanément comme ça, je suis pas une compétitrice dans l'âme. Et c'est une des premières questions qui m'est venue à l'esprit, tu vois. Je me suis dit, ça peut pas s'arrêter maintenant, quoi.
T'as même pas réfléchi à te dire, bon, c'est terminé, ça a été vraiment, quand est-ce que je reprends?
Ouais.
C'est bien ça.
Non, à aucun moment. À aucun moment. J'ai eu une fracture, j'aurais pu être paralysée si tu veux. Donc évidemment que si j'avais perdu mes jambes, peut-être ça aurait été un peu plus compliqué. Mais je ne les ai pas perdues. Ça s'est réparé, c'est un os qui s'est cassé, des os qui se sont cassés, ils se consolident. On est des humains, on a une musculature. Je suis de la partie, je connais mon métier assez bien, je pense. Et du coup, bah, c'est toi et ta volonté et la force de te battre et de faire les choses.
Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ça ? Tu m'en as un petit peu parlé quand j'étais en consulte avec toi. Tu m'as parlé de... Tu rencontrais souvent des patients qui te... Par exemple, avec des pathologies beaucoup plus graves et qui étaient des fois pour toi source d'inspiration ou source de motivation pour toi.
Je suis kiné, je soigne des gens qui ont des pathologies. J'ai eu des bobos enfants, des fractures, des choses comme ça, mais des bricoles. J'avais jamais eu d'accident ou des choses comme ça. Donc, tu soignes des gens et ils vont toujours avoir... ils peuvent toujours te répondre « Ouais, mais vous n'avez pas vécu ça. Ouais, vous connaissez pas. » Bon, déjà, premièrement, ça. Là, maintenant, j'ai connu. Si tu veux, tu as le corset, tu as... l'opération, l'intervention, le handicap, tout ça, du coup, tu t'es confronté à ça. Et puis après, il faut évidemment que les rencontres au cours d'une vie, ça forge l'existence. Et il y a certaines personnes qui, ce sont de vraies leçons de vie. Je soigne beaucoup d'enfants, des enfants handicapés. Les enfants handicapés, ça a une innocence, ça te... C'est obligé qu'après que tu ramener à toi, tu te dis mais arrête de te plaindre quoi, avance et puis fais et puis lève-toi et bouge-toi et c'est une motivation de vie quoi.
Ouais. Et du coup là t'en es où en termes de rééducation? T'es quasiment à la fin, t'es prête à...
Là j'attends l'aval du chirurgien pour... enlever le matériel. Enfin, j'ai du matériel d'une arthrodèse. Ouais. Et donc, il faut qu'on m'enlève cette arthrodèse pour pouvoir reprendre la compétition. Ouais.
Donc, reprise de compétition prévue.
Ouais.
La repréparation est reprévue. Je pense que tu l'as déjà commencé.
Oui. Je n'ai pas oublié. Hein.
Mais du temps à prendre, il ne faut pas le...
Non, je n'ai pas oublié. Non, tu n'oublies plus après. Enfin, c'est beaucoup de la pratique quand même.
Ouais,
tu peux avoir toute la technique, évidemment qu'il la faut la technique, mais moi je pense que le plus grand apprentissage c'est sur le terrain vraiment.
Et vous vous êtes refixé des objectifs tous les deux, pas des objectifs mais des projets sportifs communs?
C'est difficile de se fixer des projets là puisque on a...
Tu sais pas trop?
Non, puisqu'on
un rêve
a...
rêve peut-être de compétition ou des projets à faire?
Moi, personnellement, j'aimerais finir un Dakar une fois, évidemment. Tu abandonnes à la 11e parce que ton moteur il casse.
Ouais, ça laisse un petit goût amer. Ouais. Et pour toi, Mathieu, projet sportif? Alors peut-être que, on a parlé de la convalescence de Axel. Est-ce que toi, tu as continué, tu as...
Projet sportif, on avait évoqué ensemble qu'on soit capable de monter sur le Mont Blanc, donc on va y faire.
Joli ça.
Je pense, faut qu'on s'y mette. Après, on a
en buggy pareil ou...
ouais, non, on va nous poser un hélicoptère. Ouais, on y sera arrivé.
Forcément.
Ça sera réglé. Quoi.
Forcément.
Mais non, ce serait une sorte de défi, un petit défi tranquille. Et ensuite,
tranquille, hein.
Moi je continue les rallyes classiques, modernes, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là en 2023, donc on repart pour le championnat de France sur terre. Et on a été l'année dernière, on a fini quoi, 3e du championnat de France.
Hey.
Et en 2014, j'étais vice-champion. En 2022, on finit 3e, on régresse. Donc en 2023, il faut qu'on gagne. Donc là, cette année, on part pour l'objectif avec ma sœur d'être champion de France sur terre.
Alors, du coup, c'est un championnat amateur. Il y a des pros, comment?
Ouais, je pense qu'on est tous, on a tous des amateurs. On est dans une catégorie en France où on peut avoir des professionnels qui intègrent les compétitions, mais c'est 95% d'amateurs qui se retrouvent sur ces rallyes.
C'est en fréquence, un tous les 15 jours
Non, il y a 6-7 rallyes par an.
D'accord.
Voilà, il y a une petite trêve. Ça attaque en avril, enfin, je n'ai pas le calendrier en tête, mais voilà, 6-7 rallyes à partir du mois d'avril, et ça se termine, le dernier rallye est en novembre.
Il faut que tu les prépares là, du coup, tu repères.
Ça se repère pas, c'est rallye en France, ça se repère le jour du rallye, c'est des reconnaissances qui sont faites pendant la compétition.
D'accord.
Donc la préparation c'est le véhicule, c'est le physique si on a le temps et si on essaye de se mettre au mieux. Et voilà, donc ouais, les objectifs 2023 c'est améliorer la saison, enfin être mieux que la saison dernière, et puis avoir entre nous nos projets et nos plannings communs pour continuer le rallye raid. C'est pas encore bien défini, quoi.
Oui, il faut surtout qu'Axel se remette sur pied.
C'est ça, c'est retrouver une physique, partir doucement, mais je sais qu'on partira pas doucement, quoi, c'est pas possible. Voilà, ce sera à un moment donné, on va aller...
un petit tour en Andalousie, hop,
voilà, on va faire un rallye et puis hop, on repart en avant. Voilà, bah ça va être forcément dans ce sens là c'est sûr. Et puis c'est intégrer tout ça dans un planning personnel, dans un planning professionnel, et c'est pas évident, je pense.
Ouais. Alors, pour terminer ce podcast, parmi vos parcours communs dans le rallye raid, s'il y avait un moment que vous aimeriez revivre, je vous donne une baguette magique, je vous dis tu peux revivre grâce à cette baguette magique ce moment, ça serait lequel? Alors ça peut être une rencontre, ça peut être une rencontre avec je sais pas, il me semblait que vous aviez rencontré Lub par exemple, non c'est pas ça, je dis pas de conneries, lors du Dakar, ou alors ça serait une étape. Alors moi par exemple, quand vous m'avez dit que vous avez dormi à même la dune, je sais pas moi, la nuit étoilée peut-être, de ça donne quelque
ouais,
chose.
Là on en parle, on est assis dans une maison, on est en t-shirt, on est bien. Quand ça t'arrive sur ton premier Dakar de dormir à l'extérieur, enfin à l'extérieur dans ta voiture,
ouais,
assis dans ton baquet avec ta couverture de survie sur toi parce que tu te gèles.
Ouais.
Et donc c'est ouais, non, c'est pas fun. c'est pas ce moment-là, moi perso, que
j'aime. C'est un beau souvenir, mais c'est pas ce moment.
Ouais, c'est ça, c'est un souvenir qu'on n'oubliera pas, je pense, ça c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qui pour moi. Et,
ouais. Un beau souvenir.
Non, non. Là, en réflexion, qu'est-ce que j'aimerais revivre Ouais, je pense que c'est le premier moment, la découverte de ce rallye du Dakar, c'est les premiers instants de ne pas savoir ce que tu fais, comment ça se passe, etc. C'est
au moment,
ça,
au moment où tu pars et ouais, tu te dis « Oh, je suis quand même sur le départ du Dakar ».
Ouais, tu n'imagines pas, tu es là, tu es petit, tu es parti de multitudes de concurrents, on est 200 concurrents on lance la bagarre. C'est,
le moment où tu as fini la première étape, tu dis « J'ai fait une étape du Dakar ».
Moi, ouais, c'est... La deuxième spéciale du Dakar, deuxième ou troisième, je ne me souviens plus précisément, mais c'était la première spéciale où on faisait des dunes. Donc on était allé une fois au Maroc, j'avais mis. J'ai monté la dune du Pila et je suis allé à Merzouga une fois, quoi, tu vois. Donc voilà les dunes que j'avais vues. Et en fait, je m'étais mis une pression par rapport à cette navigation dans les dunes, les caps à les caps. Et en fait, j'étais à côté et je voyais Mathieu qui me faisait ça avec une aisance et qui montait, qui descendait. Et bah, pour la petite histoire, on suivait Quintero, un pilote qui est officiel dans une écurie officielle. Et il jouait, tu sais, on avait l'impression. Et moi, j'étais à côté. C'est pas que t'as rien à faire en nave dans les dunes, mais t'as le temps d'un peu, entre guillemets, savourer. Et cet instant-là de flottement où je me disais, bah, en fait, c'est simple, quoi. On le fait easy, quoi. Et ça, ouais, non, bon, ça nous l'a pas fait souvent, hein, mais il y a eu ce petit laps de temps quand même.
Ça serait ce moment-là.
Ouais.
Vous avez une autre question ?
Oui, une petite question. Est-ce que, dans un petit kiff, alors peut-être pas sur aussi long que le Dakar, mais faire un petit rallye ensemble, mais en inversant les rôles, ça te tenterait pas de vivre un coup la conduite ?
Non, non, il a une exigence de pilotage. Ouais.
Non, mais sur un truc peut-être plus cool, tu vois, un truc de dire, c'est peut-être, là, je
oui,
je
alors,
conduis,
sur de la glace, en patin.
Patin sur le buggy ou patin...
patin à glace.
Ou patin à glace, c'est pas la même chose.
Non, non, en pilotage.
Non, mais sur un truc très cool, sur une étape.
Mathieu, il est...
Là, quand ils vont rentrer chez eux, par exemple.
C'est pas possible, tu lui donnes n'importe quel véhicule de n'importe quelle sorte que ce soit, tu sais pas comment, c'est possible. Mais il sait piloter. C'est frustrant, mais c'est comme ça.
Mais toi, ouais, de te dire, donc, puisque depuis petit, on va dire que tu es passionné
ouais,
par
ça. Oui, mais pas avec lui à côté.
Pas avec lui à côté.
Non. Non, mais je me mettrais. Il est.
Trop de pression. Mais ouais. Même sur un truc coolos où tu dis, c'est histoire de dire, je l'ai fait, quoi. Tu vois, c'est une expérience de plus de vie en te disant, hop, checklist, tac, j'ai coché. Une fois, j'ai conduit sur une étape ou sur une course, peu importe.
C'est peut-être pas forcément quelque chose qui t'attire pour l'instant.
Non.
Voilà. C'est juste. En fait, vous vous complétez bien, j'ai envie de dire. Mathieu au pilotage et toi au. La navigation.
Oui, après le pilotage, ça m'intéresse. Après, j'ai pas la compétition. Je pense que c'est parce que je me dévalorise pas mal, tu vois. Et je pense que j'ai même pas la compétence, en fait. Je suis pas sûre que tu me donnes le buggy, j'arrive à le sortir des dunes, tu vois. Je l'ai jamais fait, en fait.
Non, mais voilà, c'est justement l'occasion.
Je l'ai jamais fait.
Essayer, justement.
Ouais.
En fait, je me suis fait.
Bah ouais, il faudrait que j'essaye, ça pourrait être cool. Ça pourrait être une expérience.
Un moment où tu sais où t'es complètement largué en termes de classement. Et que c'est pas à 15 secondes.
De toute façon, là maintenant où on en est, vas-y, allez.
Allez, vas-y. Fais-toi plaisir sur une dune.
Il n'y a plus de roues, il n'y a plus rien.
Je vais dormir.
On est tranquille.
Bah, pour la petite anecdote, quand même, une des premières fois où j'ai roulé en buggy un peu off-road, j'ai fait un tonneau, quoi. Je monte un grand.
C'est peut-être pour ça que.
Ouais, c'est ça. Du coup, chacun a son poste, quoi, tu vois.
Donc, un petit tonneau tranquille.
Ah oui. Hop.
Voilà. Finalement, il tient bien le buggy. T'as fait du bon boulot, Mathieu.
Ton copilote, t'avais pas dit, non ? Il y a quelque chose.
Il y avait pas, non, la note était pas bien annoncée. C'est ça.
Non, je pense qu'au moment où ils sont retombés sur les roues, Mathieu lui a fait : allez, là, on sort et je me mets à ta place et on arrête les conneries
maintenant. Arrête,
c'est
arrête.
Fini parce que j'ai pas envie de passer 4 heures encore en mécanique pendant que toi tu vas dormir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On arrive au terme de ce podcast qui était pas mal déjà, un peu long. Merci beaucoup d'avoir encore accepté mon invitation. Merci Seb aussi. Vous savez que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast connues telles que Podcast Addict, Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Je le redis aussi, les musiques que vous avez entendues pendant ce podcast sont le choix de notre invité. J'ai laissé à Axel le choix. Peut-être que du coup Mathieu n'assumera pas ces musiques là, mais c'est le choix de ces musiques comme de nos invités. Vous pouvez nous écrire aussi, vous savez, sur la boîte mail. Je reçois pas mal de messages sur csc04@outlook.fr si vous voulez participer au podcast, parler de votre passion, parce que dans ce podcast là tout le monde est invité à partir du moment où vous avez une philosophie de sport qui est CSC compatible, j'ai envie de dire. Donc encore merci chers invités, merci mon Seb, et à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao ciao.
Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des petits culs s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, nager, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes.